VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Bion, il est midi à Niamey. Bonjour à tous. Deux congrès rivaux pour le principal parti d'opposition au Niger, le Mouvement démocratique nigérien moderne, ont été convoqués dimanche dans deux villes différentes selon des communiqués parus dans la presse locale. Le bureau politique national du Moderne, fidèle à l'opposant en exil Mahamadou et soutenu par les députés du parti, a annoncé la tenue d'un congrès dans la capitale Niamey. Simultanément, Mahamadou Nouma, éjecté à la mi-juillet du fauteuil de président par intérim du Modem par Mahamadou, a convoqué un congrès dans la ville de Dosso, c'est dans le sud-ouest du Niger. Mahamadou, fondateur du Modem en 2009, arrivé deuxième à la présidentielle de 2016, vit en ce moment en exil après sa condamnation à un an de prison en mars 2017 pour une affaire de trafic international de bébés qu'il a toujours qualifié de complot politique du pouvoir pour l'écarter. Des élections présidentielles et législatives doivent avoir lieu en 2021 au Niger. Ces scrutins doivent être précédés par des élections municipales et régionales. Guinée équatoriale, l'ONG Amnesty International s'inquiète du traitement réservé aux opposants. L'ONG cite le cas de Joaquin Elo Ayeto, arrêté fin février à Malabo et toujours en détention, qui a été battu violemment au poste de police alors qu'il était pendu par les mains. Anne Alberson.
Amnesty International a dénoncé ce vendredi la torture, la répression politique et les nombreuses violations des droits de l'homme sous la présidence de Teodoro Obiang Nguema. Ce dernier s'apprête à célébrer demain ses 40 ans à la tête de son pays. La gouvernance de ce petit pays hispanophone, qui bénéficie d'une importante manne pétrolière, est régulièrement critiquée par des ONG de défense des droits de l'homme. Une loi approuvée en 2006 interdisant la torture n'a pas été appliquée puisque la police continue d'utiliser régulièrement la torture pour obtenir des confession, affirme Amnesty International dans un communiqué.
En RDC, la présidence a indiqué que le trafic avait repris hier après-midi entre la ville congolaise de Goma et la ville rwandaise de Gisenyi. 8 heures après la fermeture de la frontière, fermeture que Kigali a démenti. On avait signalé auparavant deux nouveaux cas de contamination au virus Ebola en 24 heures à Goma et un deuxième malade Ebola est décédé mercredi dans cette ville. À la frontière entre le Rwanda et la RDC, notre correspondant à Goma, Charlie Kasereka, fait le point.
En moyenne, c'est autour de 45 000 personnes qui passent ici par jour dans les deux sens. Depuis l'annonce de la maladie à virus Ebola en RDC, les autorités congolaises ont installé des pots de lavage des mains comme ici à la petite barrière, l'un des passages utilisés par les petits commerçants de Goma et de Gisenyi au Rwanda.
Nous étions surpris ce matin en arrivant ici, voyant que la frontière est fermée. Il n'y avait même pas d'avertissement, pas de sortie ni entrée côté rwandais. Notre seul boulot, c'est de transporter les marchandises ici à la frontière. On nous dit que le motif de la fermeture serait Ebola.
Heureusement pour eux, vers 13h locales, le Rwanda a ouvert ses postes frontières avec la RDC, soulageant toutes les femmes qui gagnent leur vie à cette frontière. Anifa, comme les milliers d'autres qui traversent tous les jours cette frontière, 3 à 4 fois par jour, c'est un soulagement.
Je suis très contente de voir la frontière réouverte. Je suis commerçant de la farine et je remercie les autorités.
J'étais là le matin, la frontière était fermée, nous avons tous été bloqués. Maintenant, j'ai de l'ouvrir, je dis merci aux autorités.
À Goma, la société civile locale demande les autorités sanitaires d'impliquer toutes les couches de la communauté pour mettre fin à cette épidémie. Placide Nzilama est cadre de la société civile ici à Goma.
Je crois qu'il y a lieu de renforcer la sensibilisation avec toutes les corporations, des transporteurs, des vendeurs de vivres. Donc toutes les corporations qui font des mouvements sur nos routes devaient être aussi associées à cette démarche-là de l'éradication de la maladie à virus Ebola.
Les autorités rwandaises ont ouvert la frontière Gisenyi-Goma en début d'après-midi. Une fermeture momentanée motivée par les nouveaux cas de la maladie à virus Ebola à Goma. Le matin déjà, Kinshasa a regretté une décision unilatérale de la part des autorités rwandaises. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Merci Charlie. Le dépôt des candidatures pour le scrutin présidentiel anticipé en Tunisie a débuté aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 9 août au siège de l'instance indépendante chargée des élections, ISIE à Tunis. Selon l'AFP, la présidentielle initialement prévue en novembre a été avancée au 15 septembre à la suite du décès du président Béji Caïd Essebsi le 25 juillet à l'âge de 92 ans. Ce matin, 8 candidats ont déposé leur candidature. Au moins 9 combattants des forces loyales au gouvernement libyen d'Union nationale GNA ont été tués hier lors d'affrontements au sud de Tripoli avec les forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, selon un porte-parole des forces du GNA. Il a aussi fait savoir que les forces du maréchal Haftar, qui a lancé le 4 avril une offensive pour conquérir Tripoli, ont subi également des pertes sans donner de chiffres précis. 6 combattants pro-Haftar ont été capturés d'après le GNA. Après près de 4 mois d'affrontements meurtriers, les forces pro-Haftar stagnent aux abords de la capitale, freinées par les forces loyales au GNA basées à Tripoli et reconnues par l'ONU. Là, selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, les combats aux abords de Tripoli ont fait 1093 morts et 5752 blessés, ainsi que plus de 100 000 déplacés. Les généraux au pouvoir au Soudan ont annoncé l'arrestation de 9 membres des puissants et redoutés forces de soutien rapide pour la mort de jeunes manifestants tués par balles, parallèlement à la poursuite de négociations avec la contestation sur un accord de transition. Cette annonce a été faite alors que 4 manifestants ont été tués jeudi à Omdurman, ville voisine de la capitale soudanaise, lors de rassemblements organisés à travers le pays à l'appel du mouvement de contestation pour dénoncer la mort de 4 lycéens lundi dans la ville d'Al-Obeid. Une enquête a été ouverte sur les événements d'Al-Obeid et 7 membres des RSF ont immédiatement été limogés et remis à la justice civile pour être jugés, a déclaré aujourd'hui devant la presse le général Shamseddine Kabashi.
Nos infos sur voaafrique.com.
En direct du studio 1740, bon, nous continuons ce journal. Les gouvernements européens ont commencé à voter aujourd'hui pour désigner leur candidat à la succession de Christine Lagarde à la tête du Fonds monétaire international FMI. Ils ont le choix entre 4 candidats, dont 2 femmes, la bulgare Kristalina Georgieva, actuelle numéro 2 de la Banque mondiale, et la ministre des Finances espagnole, Nadia Calviño. Face à ces candidatures féminines, le gouverneur de la Banque de Finlande, Olli Rehn, et le néerlandais, Jérôme Dijsselbloem, ancien président de l'Eurogroupe. Le président Donald Trump a relancé hier le bras de fer commercial avec la Chine en annonçant qu'il allait imposer 10% des tarifs douaniers supplémentaires sur les 300 milliards de dollars d'importations chinoises jusque-là épargnées. Les précisions avec Irénée Amanongo.
Ces nouvelles taxes entreront en vigueur le 1er septembre, a écrit le président Trump, précisant que les négociations qui ont repris cette semaine à Shanghai pour tenter de mettre fin aux différends commerciaux entre les deux pays allaient se poursuivre comme prévu. Il justifie sa décision par le fait que Pékin n'a pas tenu, selon lui, 2 engagements très importants, achat massif de produits agricoles américains et coup d'arrêt aux ventes de fentanyl, un opiacé très puissant qui fait des ravages aux États-Unis et dont la Chine est l'un des principaux producteurs. L'annonce du président a fait l'effet d'une bombe sur les marchés. Le pétrole a chuté de 6% à New York et les principaux indices boursiers à Wall Street sont passés au rouge. Les négociations entre Américains et Chinois ont pourtant repris cette semaine à Shanghai. Les deux parties ont fait état de discussions productives et promettent de reprendre langue en septembre à Washington pour tenter de mettre fin à ce conflit.
Et la Chine a promis aujourd'hui de prendre de nécessaires mesures de représailles si le président américain Donald Trump met à exécution sa menace d'étendre ses droits de douane punitifs à l'ensemble des produits chinois importés. Les États-Unis ont gravement enfreint la trêve conclue en juin entre le locataire de la Maison-Blanche et le chef d'État chinois Xi Jinping à Osaka lors du sommet du G20, a indiqué le ministère chinois du Commerce dans un communiqué. Les États-Unis ont confirmé aujourd'hui leur sortie officielle du traité de désarmement, INF, en accusant à nouveau la Russie de violer ce texte bilatéral emblématique conclu pendant la guerre froide et d'être seul responsable de son échec. Moscou, qui avait également suspendu sa participation, a réagi à la fin de cet accord clé en proposant un moratoire sur le déploiement d'armes de portée intermédiaire. Washington avait suspendu début février sa participation en accusant la Russie de fabriquer des missiles non conformes. Cette suspension avait ouvert une période de transition de 6 mois qui débouche aujourd'hui sur le retrait américain pur et simple et donc sur la mort de ce traité. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis. Bon après-midi à tous et bon week-end.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.